The Russian Fortune avec Helmut Schwartz le mercredi soir. La barge russe with Johnny Tivek tous les jours 14h. Oh yeah. You got it? The blues will never die. Ils sont là pour vous. Oh yeah, they are.
Barjerus 1025, la création d'un futur inconstant. Voyez-vous, ma sociabilité, cher ami, fait défaut. Oui, fait défaut. Parce que je suis en public. Oui, exactement. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit... Un jour, professeur Schmibli, vous finirez par être seul. Et là, je me rappelle, je réfléchis. Je dis, mais je suis déjà seul, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis déjà seul. Et c'est bien parce que j'ai envie de l'être, n'est-ce pas? Je ne cherche pas. Comme disait un télo, je ne sais plus son nom. J'ai une solitude très peuplée. Oui, exactement. Je n'ai pas forcément, bien sûr, le besoin humain de partager des moments, de sociabiliser. Oui, de parler, quoi. Ça, j'y arrive très bien. Mais avoir une apparence, ça m'est complètement égal, n'est-ce pas? Et, c'est ce qui s'appelle sociabilité, quoi. Celui d'avoir des amis, des copains, oui, c'est ça. Mais cela étant dit, je me porte, il me semble, je touche du bois, c'est pas, et la peau de chien qui dort à côté de moi, je ne me porte pas plus mal, pour le moment du moins, mais je finirai seul, et certains, oui, il pourrait m'arriver quelque chose... Mais je me semble déjà être assez seul. Enfin, oui. Mais bien que j'ai entouré, et puis je vis avec Johnny Tivek depuis quelques jours seulement, je m'en vais bientôt. Oui, c'est agréable, mais ça me prend la tête un petit peu, quoi. Oui. Oui, je n'aime pas discuter avec les gens. Les partages, les pensées sont différentes pour tout le monde. Avec Johnny, il arrive qu'on s'entende, qu'on ait des choses en commun. Mais bon, si c'est passager, c'est pas tout le temps, quoi. Moi, j'aime beaucoup les chroniques qui m'invitent. Nous en préparons plusieurs, là. Pour qu'il m'a invité chez lui. Mais, voilà. Mais je crois que je vais m'en aller bientôt. Oui, très bientôt.
Cet état d'âme du professeur Schmidbli qu'il vient de nous livrer, qui me semble davantage le professeur Schmidbli vivre dans l'instant, ayant une bonne connaissance des phénomènes. Il est, comme toutes les personnes, créateur indubitable de son temps, de son existence. Tout le monde crée son temps, son existence, être acteur de son temps, quoi, tu vois. C'est ça qui est entendu ici. Et le professeur Schmidbli m'a confié éviter les joutes verbales, bien sûr, les mélanges, diffusion, confusion de sens donnés, qui peuvent se donner à des événements.
Ou encore les régularités.
Afin de mieux percevoir des événements. Et tout ceci, il évite de se mélanger de toutes ces joutes verbales, comme je disais, afin de mieux percevoir son futur. Concentration, méditation. Et je me suis dit, là, il y a un morceau que j'ai découvert à la médiathèque. Je ne connaissais pas les Who Live Fillmore East, parce que vous savez, Est et Ouest, donc Ouest c'était plus psyché, et Est c'était New York, quoi. Et waouh, putain, My Generation, une demi-heure, quoi.
I see it. For tonight now. And we thank everyone again for coming. And anyone that's just coming, don't worry, because the next one's going to last quite a long time. How long, we don't know. Not all that long. Long enough to get into it, innit? And this is an old one. And a goodie. It's on my list of classics. Oh dear. And it's My Generation.
la longueur, donc la longueur de ce morceau, My Generation, ma génération, prolonge l'éternelle sagacité d'un instant. Qui, comme on va le voir par le texte que je vais pouvoir vous lire maintenant, c'est l'éternel. Je savais bien que c'était... Enfin, comme je vais dire, je n'avais pas expliqué, mais l'éternel, c'est... Là, j'ai trouvé les mots davantage pour... C'est le moment présent qui dure, quoi. C'est ça, l'éternité. À la différence de l'immortalité, qui, lui, c'est dans le temps, quoi. Tu vois, t'es un éternel qui se répète sans arrêt, mais jamais le même éternel, on pourrait dire, dans l'immortalité. Alors que l'éternel, c'est bien plus précis, quoi. Défini. Et l'immortalité, plutôt indéfinie, par rapport au temps. En tout cas, My Generation, une demi-heure, moi je me rappelle, quand j'ai découvert ce morceau, je l'écoutais. Hein. Et vraiment, Pete Townshend, attends, on est en 68, quoi. Mais faire ce qu'il fait en 68, enfin, je sais pas, il y avait Hendrix aussi qui faisait des trucs comme ça, mais une demi-heure, quoi. Et puis il y en avait sûrement d'autres, forcément, j'étais pas là en 68. Hein. Mais des trucs, un morceau, cette qualité en plus. Alors le début du concert, en fait, il y a deux CD. Y a le début du concert, ça dure pas longtemps, hein, ça dure même pas une minute. Mais on sent qu'ils sont pas raccord, quoi, tous. Ils jouent pas vraiment tous ensemble. Et puis après, bon, au bout d'une minute, c'est fini, quoi, déjà. Mais... Et vous avez entendu, dans My Generation, on entend un truc de Tommy. Il devait déjà bosser sur Tommy. Alors, je ne sais plus quel morceau c'est, mais Tommy, l'opéra rock des Who, de 69, qu'il a écrit, qui est sorti l'année d'après. Donc là, déjà, il était dans les... Il bossait dessus en studio, quoi. C'est clair. Donc maintenant... Talking about my generation, think that you'll come full cop. Alors oui, maintenant, donc, je vais vous parler Saint-Augustin. Alors, j'ai découvert hier en bouquinerie, donc je l'ai acheté, 90 centimes, La création du monde et le temps. C'est surtout ça qui m'a plu, qui m'a appelé. Donc, c'est aux éditions Folio, 2 euros, sagesse. J'ai quand même beaucoup, beaucoup souligné. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont, bien sûr, relativisées. Donc là, chapitre 5, que le monde a été créé de rien. Ah bon, ça connaît forcément, c'est religieux. Ok, c'est Saint-Augustin. Alors Saint-Augustin, j'ai lu, il est de 300... On en trouve. Il naît le 13 novembre 354 à Tagaste, dans la province romaine de Noumidie, aujourd'hui Soukara, en Algérie. Tu vois, c'est chrétien, quoi, Saint-Augustin. Donc, mais il faut, je vais relativiser, après chacun, je vais interpréter, quoi. Donc, voilà. Mais, mon Dieu, comment les avez-vous faites ? Comment avez-vous fait le ciel et la terre? Certes, vous n'avez pas créé le ciel et la terre, ni dans le ciel, ni dans la terre, ni dans l'air, ni dans les eaux, puisque toutes ces choses sont comprises dans le ciel et dans la terre. Vous n'avez pas non plus créé tout ce grand univers dans l'univers, parce qu'avant qu'il fût créé, il n'y avait point de place dans laquelle on le pût créer pour lui donner l'être. C'est très rhétorique. Vous n'aviez rien entre les mains dont vous puissiez former le ciel et la terre. Car d'où serait venue cette matière dont vous puissiez former quelque chose si auparavant vous ne l'aviez faite elle-même, puisque votre être est la cause de tous les êtres. Ça, il faut retenir. Puisque votre être est la cause de tous les êtres. Vous n'avez rien entre les mains dont vous puissiez former le ciel et la terre. Car d'où serait venue cette matière dont vous puissiez former quelque chose si auparavant vous ne l'aviez faite elle-même, puisque votre être est la cause de tous les êtres. Il faut donc conclure que vous avez dit que ces choses fussent faites et qu'elles ont été faites. et qu'ainsi, c'est par votre seule parole qu'elles ont été créées. Et là, j'ai annoté, c'est dès le début, un petit peu une fermeture d'esprit. C'est une interprétation, et c'est comme, mais tout son texte, la création du monde et le temps, c'est quand même dingue, c'est hyper ouvert. Je veux dire juste là, en disant ça, que c'est très religieux, quoi. Il n'y a que Dieu et rien d'autre. Et ça, la science telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas, pas à ce point qu'elle est aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, il fallait que quelque chose, on venait pas de rien. Et donc c'était Dieu, lui il l'appelait Dieu, il avait tout créé. Voilà. Mais j'ai au début de ce texte, de tous ces textes, j'ai dans les premiers chapitres un peu ce que j'appelle fermeture, même si c'était pas du tout fermé vu la qualité du truc, hein, en 300 après Jésus-Christ, c'est super, hein, ce qu'il a écrit vraiment. Ensuite, chapitre 10, de ceux qui demandent ce que Dieu faisait avant qu'il crée le ciel et la terre. Eh ben, il était dans un hamac sur deux arbres. Non, il était sur. Non, c'est une force transcendantale, mon cher. Bon oui, alors car, dit-il, s'il demeurait sans rien faire, pourquoi n'a-t-il pas toujours continué à demeurer ainsi sans agir, comme il y était toujours demeuré auparavant? Hein? Pourquoi il n'a pas continué de rien faire? Pourquoi est-ce qu'il a fait quelque chose? Et si on reprend la barge russe passée, qui était avec Schmidbli, quand il disait pourquoi est-ce qu'il a... Attends, qu'en fait, le monde a été créé pour éliminer le mal. Bon, je ne sais plus par rapport à quel bouquin il disait ça. La vision dynamique du monde. Ah oui, par rapport à Nietzsche, ouais. Ou alors avant, la nécessité de la naissance de la guerre, je ne sais plus. Peut-être aussi. Mais oui, mais il faut tout envisager. Hein. Donc chapitre 11, maintenant, réponse à cette objection que l'éternité de Dieu ne se mesure pas par le temps. Alors, mais en même temps, leur esprit roule toujours en soi-même les images de ces mouvements qui font le passé et l'avenir. Et ainsi, ils ne peuvent avoir qu'une vaine et fausse idée de ce qui est éternel. Oui, bon, ça, on aurait pu s'en passer, n'est-ce pas? Alors, ensuite, qu'il n'y a point de temps... Puis donc, vous êtes le créateur de tous les temps, s'il y en a... eu quelqu'un avant que vous eussiez fait le ciel et la terre, comment peut-on dire que vous demeuriez alors sans rien faire, puisqu'au moins vous faisiez ce temps, et ainsi il ne se peut point faire qu'il se soit passé du temps avant que vous fissiez le temps. Il tourne un peu en rond, mais c'est très logique. Tu vois, qu'est-ce que tu faisais avant de faire le temps? Tu devais faire quelque chose, mais tu n'avais pas besoin de le faire. Mais si on reprend Nietzsche, ce que disait Schmidbli hier sur lui, que dans son truc dionysiaque, la vision du monde dionysiaque de Nietzsche, que le monde, l'humanité, la planète Terre aurait été créée, selon la mythologie grecque, pour évacuer... Ah mais non, c'était avant, c'était bien avant, c'était sur le Zoroastre, c'était moi en fait, qui disais ça. Sur la nécessité de la naissance de la guerre, oui, qu'il y avait... Que le mal devait était là et la planète aurait été créée pour justement mettre un point, quoi. Donc, je l'ai lu. Hein. C'était dans Mircea Eliade et le temps des croyances. Alors, qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Je puis néanmoins dire hardiment que je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait point de temps passé. Que si rien n'avenait, il n'y aurait point de temps à venir. Et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. En quelle manière sont donc ces deux temps, le passé et l'avenir, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Et quant au présent, il était toujours présent, et quand s'écoulant, il ne devint point un temps passé. Ce ne serait plus le temps, mais l'éternité. Si donc le présent n'est un temps que parce qu'il s'écoule et devient un temps passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit, laquelle n'a autre cause de son être, sinon qu'elle ne sera plus. De sorte que nous ne pouvons dire avec vérité que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être plus. Alors on continue avec le chapitre 14, mais cette même heure n'était composé que de moments fugitifs. Voilà, j'essaie de faire fugitif éternité, quoi. Fugitif, ouais. En répétant. Ouais. Alors, mais cette même heure n'étant composée que de moments fugitifs. Le présent n'a donc aucune étendue. Et ainsi, où est le temps que nous puissions appeler long? Il sera long. Et quand donc le sera-t-il? Lorsque de futur qu'il est, il commencera d'être ce qu'il n'est pas, et qu'il deviendra présent, le futur, afin qu'ayant l'être, il devienne long, pour l'éternité. C'est rhétorique. Donc ensuite, on passe au chapitre numéro 28. En quelle sorte le temps passé et l'avenir sont présents. Alors, ah oui, donne un exemple à la fin. Donc c'est « Lorsque j'aperçois l'aurore, je prévois aussitôt que le soleil va se lever. Ce que j'aperçois est présent, et ce que je prédis est à venir. Non pas le soleil qui est déjà, mais son lever qui n'est pas encore. Et je ne pourrais le prédire si je ne l'imaginais dans mon esprit, ainsi que je fais maintenant lorsque j'en parle. Mais cette aurore, même laquelle je vois dans le ciel, n'est pas le lever du soleil, encore qu'elle le précède. Ni cette imagination que je conçois dans mon esprit n'est pas non plus se lever. Mais ce sont ces deux choses lesquelles sont présentes qui me font prédire le lever du soleil qui est à venir. Par conséquent, les choses futures ne sont point encore. Et si elles ne sont point encore, elles ne sont point. Et si elles ne sont point, elles ne peuvent en aucune sorte être vues. Mais elles peuvent être prédites par les choses présentes qui ont déjà et qui sont vus. Voilà toute l'explication des phénomènes. Quand je vous disais sur Schmilbli, lui, il est, c'est un arrêt dans le temps, une analyse du présent, en fait, du présent qui évolue sans arrêt, un aperçu nouménal, mais en parfaite conscience du phénomène. Le nouménal, c'est... Tu vois pas plus loin que maintenant, quoi, tu vois. Tu restes figé dans le temps présent, tu peux vivre très bien, mais tu n'as pas trop d'anticipation. L'anticipation vient de là. Dans l'étude, l'analyse du présent, quoi. Maintenant, tu vois, c'est déjà oublié, c'est déjà fini. C'est déjà... Parce que là, je peux dire que... Je pouvais pas, par contre, prédire que quelqu'un allait sonner à la porte. Je pouvais pas le prédire, ça. Quoique, j'aurais pu, parce que c'était le facteur, en fait, que j'ai croisé en prenant mon chien, et il m'a dit « Ah, est-ce que tu as du courrier ?» Il a regardé, et il n'avait pas de courrier. Et en fait, mais j'aurais dû voir dans son regard qu'en fait, il en avait du courrier pour moi, parce qu'il est remonté, et en fait, il avait du courrier. Et j'aurais dû le savoir. J'aurais pu prédire ça, mais c'est sans importance, tu vois. J'aurais dû « Ah, je le savais !» Quel était mon comportement à ce moment-là? Ouais, non, mais il n'y avait aucune importance, quoi. Donc, j'ai pas du tout retenu. Donc, ensuite, chapitre 19. Il prie Dieu de lui faire comprendre en quelle manière les hommes connaissent les choses à venir. Apprenez-moi, je vous en prie, quelle manière vous faites donc connaître aux hommes les choses futures, car c'est vous qui les avez fait connaître à vos prophètes. Quelle est cette manière par laquelle vous, pour qui il n'y a rien qui soit à venir, faites connaître les choses futures, ou pour mieux dire, faites connaître ce qu'il y a de présent des choses futures, puisqu'il est impossible de faire connaître ce qui n'est point. J'avoue que cette manière est si élevée au-dessus de moi que la pointe de mon esprit ne peut pénétrer jusque-là. Je suis incapable d'y atteindre par moi-même, mais il me sera facile par votre assistante si votre lumière m'est favorable et daignez éclairer les yeux de mon âme. » Et là, j'ai annoté les signes. C'est comme ça qu'il fait. Enfin, selon mon point de vue. Il le savait bien aussi, Saint-Augustin. C'est juste pour écrire et puis partager pour que d'autres personnes se posent des questions. Quoi. Ensuite, le chapitre 22 maintenant. Ah, c'est qu'avant, j'étais à 17. Ouais, bon. 22. Il demande à Dieu l'éclaircissement de cette faculté. Bah, oui, bah, c'est bien. Vous avez réduit mes jours à l'état immortel de périssable et vieil homme, le double du temps. Alors ensuite, chapitre 24. Le temps est-il la même chose que le mouvement des corps? Ah ouais, donc là, c'est un peu bergsonien, je trouve. Car encore, que le corps se meuve quelquefois diversement et quelquefois demeure immobile, nous ne mesurons pas seulement son mouvement, mais aussi le temps qu'il a cessé de se mouvoir. Et disons, il s'est arrêté durant autant de temps qu'il s'est ému. Et ainsi, plus ou moins, selon ce que nous l'avons mesuré en effet, ou croyons l'avoir mesuré. Le mouvement du corps n'est donc pas le temps. Ouais. Je trouve le mouvement et le temps, il l'a écrit Bergson, un truc comme ça. Aussi. Alors, ensuite, on est au chapitre 27. De quelle sorte nous mesurons le temps? Tellement que si quelqu'un se propose de soutenir en parlant le ton de sa voix, il résout dans son esprit combien il la veut faire durer. Il détermine dans le silence cet intervalle de temps et le donne en garde à sa mémoire. Puis commence à préférer cette voix, à proférer cette voix, laquelle se fait entendre jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au terme qu'il s'était proposé. Ou pour mieux dire, elle s'est fait entendre et se fera entendre, puisque ce qui étant déjà passé s'est fait entendre, et que ce qui en reste se fera entendre. Ainsi, elle s'achève lorsque l'attention présente de notre esprit fait que l'avenir devint passé et que le passé s'augmente d'autant que l'avenir diminue, jusqu'à ce qu'étant entièrement écoulé, il n'y ait plus rien que de passé. Voilà la fuite. Ensuite, chapitre 28, c'est par l'esprit que nous mesurons le temps. Où comment le passé peut-il croître puisqu'il n'est déjà plus? Qui pourrait nier que les choses passées ne sont plus? Alors moi, ça, j'en sais rien. Dernier chapitre de la création du monde et le temps par saint Augustin, donc c'est le chapitre 31, la différence qu'il y a entre les connaissances de Dieu et celles des hommes. Alors, quelle différence il y a? Ça m'intéresse, en fait. Alors, créateur des corps et des âmes, connaissez en cette sorte toutes les choses futures et les passées. Et se partage en quelque sorte par l'attente des vers qui restent encore à réciter, et par le souvenir de ceux qui ont déjà été récités, que vous êtes vraiment éternel. Comme donc, dès le commencement, vous avez connu le ciel et la terre, sans aucune variété de connaissances, vous avez de même, dès le commencement, créé le ciel et la terre sans aucune différence d'action. Alors là, j'ai annoté encore fermeture d'esprit. Alors, je ne sais plus pourquoi, par rapport... parce que ça, c'est comme ça. C'est très cartésien, quoi. Très rhétorique, en fait, aussi. C'est une logique, mais qui lui est propre et qui devait être partagée par beaucoup de personnes qui pouvaient le lire, beaucoup de ses lecteurs. Créateur des corps et des âmes, connaissez en cette sorte toutes les choses futures et passées, ok, protège, partage, en quelque sorte, par l'attente de ces vers qui restent encore à réciter, hein, vous êtes vraiment éternel, commencement, vous avez connu, hein, Mais tu vois, vous avez connu le ciel et la terre d'aucune variété de connaissances. Vous avez de même, dès le commencement, créé le ciel et la terre sans aucune différence d'action. Ouais. Bah c'est, ouais, c'est la religion. Et voilà, et c'est là que j'ai annoté à la fin du texte, en fait, de tout la création du monde et le temps, j'ai annoté. Alors bon, c'est pas de la provocation, hein, c'est de la rhétorique aussi, si on veut, mais 21 siècles plus tard, quoi. Comment Dieu, en l'occurrence, peut-il connaître, parce que c'est le créateur, à chaque fois, je vous ai dit, il a créé, j'ai insisté là-dessus, comment donc, le Créateur, peut-il connaître le futur ? Étant donné que le futur dépend de sa création. Et sa création, c'est nous. Nous tous. Comment est-ce qu'il pouvait savoir ce qui s'est passé ? Ben, il le savait. Et peut-être qu'il est... Moi, je vois pas ça, je verrais pas ça, cette chose de la même façon, en fait. Celui qu'on appelle Dieu, le Créateur, la force transcendantale, voilà, c'est ça, c'est une force transcendantale qui fait que les choses arrivent. Mais dans la précision, j'en doute. Crée quelque chose. Alors, rien à voir, tu vas pas créer un... Aussi, tu peux créer un être vivant, bien sûr, un être humain. Un être humain, mais à deux, pas tout seul. Comment tu peux savoir le futur de ton enfant ? Bah, tu... Après, bon, on n'est pas Dieu, bien sûr, mais on est créateur. On est créateur de notre temps, de notre existence, et aussi d'existence... Certains d'entre nous peuvent être créateurs, être parents, en fait, tout simplement. Donc, ma question, après, c'est quand même la force transcendantale. C'est pour moi la force transcendantale. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est peut-être plus adapté à des religions. Moi, je m'efforce de ne pas parler, d'analyser les religions, mais pas d'être religieux. Donc, je me demande, bon, ok, il a peut-être des Dieu voit peut-être... Je pense pas qu'il sache comment va finir le... C'est peut-être prévu, la fin du monde. C'est prévu, sûrement. Il l'a prévu ou non. Mais il sait pas encore comment on va y arriver. Mais il va savoir qu'on va y arriver. Il connaît peut-être le but final. L'eschatologie est peut-être vraiment réelle. Elle va peut-être vraiment arriver, quoi. Là, tout le monde meurt et tout le monde renaît, quoi. Comme ce qu'a dit Schmilby hier par rapport à Nietzsche et à Mircea Eliade. C'est, ouais, voilà. Je pense que la finalité pour Dieu, la force transcendantale, ben, je pense qu'il n'y en a pas, en fait. Je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de fin. C'est même pas infini. C'est qu'il n'y en a pas, quoi. Il n'y a rien. C'est pas le néant. C'est peut-être l'harmonie, quoi. Le chaos, c'est l'harmonie. C'est dans l'harmonie. C'est comme Apollon et Dionysos. Ces deux êtres qui sont en nous, et ben ils vivent ensemble, quoi. Après le tube Le Malheur, le Bonheur de Gustave Beaupré, il nous offre un second titre qui va éclater les ondes. C'est Malheur, c'est le bonheur. Malheur, c'est le bonheur. Ouais, malheur, c'est le bonheur.
Fortune à 21h30, des fois par-ci le mercredi. Avec Helmut Schwartz, des fois c'est Johnny, sur Jet FM et tous ses amis. La barge russe, c'est tous les jours 14h05. Dis non au boss,